Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site hommenouveau.fr.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, nous retrouvons le même plateau, si je puis dire. Pardon de vous réduire à un plateau, d'ailleurs, c'est pas très élégant. Je salue le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, merci de votre présence. Je salue également l'abbé Marguel Fucci.
Cher ami, bonjour et bonjour à tous.
Merci de votre amitié, tissu sensible. L'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes.
Merci beaucoup. Et puis je finis par vous, Anne.
Bonjour Anne, Philippe,
le pape, donc.
Bonjour à tous.
Merci également de votre présence. Alors la dernière fois, l'émission précédente, si vous ne l'avez pas vue, ne manquez pas d'aller la regarder. Nous avons traité d'un sujet, comme on dit en presse, d'un sujet de société, à savoir la peine de mort, même si nous l'avons évoqué au regard de la position de l'Église catholique et de l'évolution de sa doctrine sur ce point-là. Aujourd'hui, vous allez traiter un élément peut-être plus fondamental, qui est la tradition. Ce qu'est la tradition de l'Église, c'est un mot qu'on emploie beaucoup au moins dans certains milieux depuis de très nombreuses années maintenant, et j'avais souhaité avoir quelques éclaircissements sur cette notion de tradition, sur sa place, son importance dans l'Église, et sur l'importance que lui accordent ceux qu'on appelle également les traditionalistes. Alors peut-être pour commencer, j'ose à peine me tourner vers un Bécellier, mais surtout, si vous voulez prendre la parole avant lui, n'hésitez pas. Si l'un d'entre vous pouvait nous donner une définition de la tradition. Non, décidément, tous les regards se tournent vers un Bécellier. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que la tradition?
Alors, la tradition, au sens général, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T dans l'Église, c'est l'acte même de transmettre sans altération la révélation divine. Et par conséquent, le contenu même de ce qui est transmis. Alors, cette tradition a d'abord été orale, parce que les apôtres ont prêché avant d'écrire, puis elle a été en bonne partie fixée par écrit, et donc certaines vérités néanmoins ont toujours continué à être transmises seulement à travers l'oral, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de l'écriture et de la tradition dans ce sens plus restreint qui est compris dans la tradition dans l'ensemble, c'est-à-dire la transmission de la révélation divine, et également, eh bien, sous-jacent, bien sûr, il y a l'interprétation par le magistère de cette tradition révélée. Et au sens absolu, si vous voulez, donc c'est la tradition dans le sens le plus large, ça contient l'écriture et ce qui a été transmis en parole, et pas le contraire. L'écriture n'est pas toute la tradition, mais la tradition contient l'écriture et ce qui a été transmis par orale.
Et un exemple de transmission par orale qui n'a pas été marqué dans le sceau de l'écrit, si je puis dire.
Par exemple, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.
Maintenant, il y a une déclaration dogmatique.
Dogmatique.
Et qui est écrite.
C'est dans la révélation. Hein, le pape ne peut définir un dogme que parce qu'il est déjà dans la révélation, il ne l'invente pas. Donc il dit c'est dans la révélation, mais ça n'est pas écrit explicitement dans la révélation.
Oui, vous venez de faire une parenthèse qui me paraît importante, où le pape ne se lève pas un matin en disant tiens, je ne sais pas quoi faire.
Voilà,
il définit un nouveau dogme.
Le dogme, c'est ce qui est contenu dans la révélation et dont l'Église nous indique qu'effectivement cela fait partie de la révélation et que donc nous devons avoir un assentiment de foi. N'est-ce pas? Mais ça a toujours été dans la révélation. Alors, par exemple, que le Christ est fils de Dieu, ça a toujours été dans la révélation. C'est très explicite dans l'écriture et c'est défini par le Concile de Nicée. D'autres vérités vont être définies comme dogmes de foi plus tardivement, mais elles sont toutes dès le départ dans la révélation qui, rappelons-le, est close avec la mort du dernier apôtre Saint Jean.
Alors sur les rapports entre puisque vous avez abordé le sujet, évidemment, sur les rapports entre les saintes écritures Et la tradition, le Concile Vatican II distingue bien les deux pourtant.
Vous voulez que je vous lise ce qu'il dit ? Dei Verbum.
J'aimerais bien aussi entendre...
Je lis juste le Concile Vatican II, puisque je vais défendre le Concile Vatican II, n'est-ce pas ? Il dit... La prédication apostolique qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, spécialement exprimée dans les livres inspirés, doit être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Les apôtres, transmettant donc ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, engagent les fidèles à garder les traditions qu'ils ont apprises, soit de vive voix, soit par écrit, et à lutter pour la foi qui leur a été transmise une fois pour toutes. Cette tradition reçue des apôtres comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi.
Merci, monsieur l'abbé.
Dei Verbum, donc, de Vatican II, numéro 8.
Très bien, nous avons toutes les références. Mon père, des réactions ou des réflexions qui continuent ce qui a été dit ?
Oui, enfin, pas grand-chose d'intéressant, mais...
Ne commencez pas comme ça, s'il vous plaît.
Non, vraiment. Simplement pour dire que l'extraction des Saintes Écritures de la tradition avec un grand T me semble être une influence plutôt protestante. Alors même si dans la Sainte Église, ça a toujours existé, évidemment, il y a la petite tradition avec les Saintes Écritures et la grande tradition. Mais ce primat donné aux Saintes Écritures, bien évidemment, c'est le protestantisme qui ne reconnaît comme tradition que les Saintes Écritures et rien d'autre. Alors, en plus, dans un contexte contemporain, tout est tradition désormais. Quand vous allez chez le boulanger, vous êtes face à la tradition avec la baguette traditionnelle.
Avec la baguette traditionnelle,
avec
oui.
Les traditions populaires, etc. Et puis, on peut remarquer qu'à partir notamment du Concile Vatican II, en tout cas de la mouvance du Concile Vatican II, devient tradition, notamment dans les ordres religieux, tout ce qui est inventé au jour le jour. Parce que là aussi, on est dans une mouvance un peu chaotique. Donc, devient tradition tout ce que les uns et les autres vont décider comme étant désormais nouvel apport de la doctrine.
En fait, là, c'est nouvelles habitudes plutôt que nouvelles traditions.
Oui, mais il n'empêche que c'est toujours sous le couvert de la tradition. Donc, on ne sait plus très bien où on en est.
Parce que la place de la tradition, justement, dans l'Église est fondamentale.
Oui, mais elle n'est pas connue. Et aujourd'hui, elle a été distordue, y compris parmi ceux qui en sont les gardiens. Monsieur l'abbé Cellier a parlé du souverain pontife. Le souverain pontife n'est pas propriétaire de la tradition. Il est le gardien du trésor qu'il a reçu. Et les évêques en communion avec lui, bien évidemment, ont leur part. Mais un gardien n'a pas comme tâche de changer le dépôt qu'il a reçu. Il a comme tâche, bien évidemment, de le faire connaître. Et c'est ce que fait l'Église. Et c'est aussi une part de la tradition.
Oui, bien sûr. Sur le rapport entre les Saintes Écritures, vous disiez que il y avait une influence protestante sur le fait qu'on distingue maintenant, enfin maintenant, je ne sais pas depuis quand exactement, mais qu'on distingue Saintes Écritures et tradition.
Non seulement distinction, mais très souvent, les Saintes Écritures vont prendre le primat à tel point que le reste de la tradition, qui existe bien, puisque c'est ce qui fait l'Église, tend à disparaître.
Alors comment doit-on voir le rapport entre les deux ? Vous vouliez intervenir, monsieur l'abbé Gueulfucci, pardon.
Bien, en fait, c'est le sola scriptura, la seule écriture, a permis de renverser à la fois la transmission du dépôt de la foi, mais aussi l'écriture. Parce qu'en fait, quand vous dites sola scriptura, vous prenez en otage la Bible, et c'est votre interprétation qui devient la révélation divine. Et donc, comme les interprétations changent, eh bien, la sola scriptura, seule l'écriture, en fait, vous lui faites dire ce que vous voulez. Et donc, on reproche à l'Église catholique d'avoir interdit la lecture de la Bible, ce qui est totalement faux. L'Église catholique a toujours demandé qu'on lise la Bible avec un commentaire
catholique
qui permet de donner l'interprétation du dépôt de la foi et de la tradition orale, et donc et aussi écrite, de ce texte. Vous voyez ? tout simplement. Et pour, on ne peut pas parler de cette notion sans citer Saint Vincent de Lérins, mais c'est important. C'est le Commonitorium, l'aide-mémoire qui est écrit par Saint Vincent de Lérins après le concile d'Éphèse en 431. Et il définit ainsi la tradition. Hein. Ici commence le traité de Peregrinus pour l'antiquité et l'universalité de la foi catholique contre les nouveautés profanes de toutes les hérésies. Et Saint Vincent propose alors trois critères. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Tenir pour vérité de foi ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Si on peut circonvenir le peuple en lui faisant croire quelque chose de nouveau, il y aura l'élément de toujours qui manquera. Si on fait croire à une partie du peuple, les Européens par exemple, par rapport à l'Afrique, une vérité, on pourra dire ce n'est pas partout.
Je ne vois pas à quoi vous faites allusion là.
Ce n'est pas partout. Et donc ce critère du Commonitorium de Saint-Vincent de Lérins est extrêmement fin.
Oui, bien sûr, mais alors comment vous faites avec le dogme de l'Immaculée Conception qui n'a pas...
Mais parce que
Il n'a pas toujours été, en tous les cas.
Non, on peut considérer que c'était l'opinion commune et que des voix comme celle de saint Thomas d'Aquin émettaient des réserves. Mais on peut considérer qu'il n'y a jamais eu une opposition farouche à croire que Marie avait été préservée du péché originel.
Peut-être pas d'opposition farouche, mais de ce fait-là, le pardon, hein, j'insiste, mais le tous me paraît quand même
mais
ne
parce,
pas entrer,
mais parce que c'est,
ne pas être
parce que le cœur même de l'Immaculée Conception, c'est la toute belle, sans tache, et cela, comment dire, même chez les orthodoxes, donc qui ont ce retard, alors qu'ils aiment beaucoup la Vierge Marie, et que, d'après les prophéties, ils mettront ce diamant à la couronne de la Vierge un jour ou l'autre, vous voyez, ils se défendent hein, quand on leur dit, mais vous dites que Marie a été purifiée, par exemple, à l'Annonciation de la faute du péché originel, ou après sa conception, à sa naissance, et tout cela. Et ils disent, oui, mais elle est la toute pure, elle est sans tache, enfin, voyez-vous, ils sont mal à l'aise, finalement, à ne pas reconnaître l'Immaculée Conception.
Vous vouliez intervenir, monsieur l'abbé ?
Non, je dirais, saint Thomas d'Aquin, rappelons que saint Thomas d'Aquin a commencé par défendre l'Immaculée Conception, puis, à cause de la rédemption universelle du Christ, dont il ne voyait pas la possibilité d'application dans ce cas-là, il a émis des réserves, mais je rappelle que c'est grâce aux thomistes que effectivement la réflexion pour rendre compte de ce qui était cru par le peuple chrétien dans son ensemble,
oui,
n'est-ce pas, pour rendre compte de façon théologique de parce qui était cru par le peuple chrétien dans son ensemble, que la réflexion s'est approfondie, n'est-ce pas, à trouver effectivement l'angle d'attaque qui permettait de comprendre et de situer ce dogme dans l'ensemble de la révélation, parce qu'il s'agissait bien d'articuler les choses pour ne pas avoir un dogme qui contredise, enfin un pseudo-dogme qui contredirait le reste de la révélation, et c'est ce qui fait que je dirais, on est arrivé à une compréhension telle que le pape Pie IX a pu effectivement définir le dogme de l'Immaculée Conception. Mais rappelons que le pape Pie IX, après la cérémonie, a donné la rose d'or, donc une récompense au général des franciscains qui avaient toujours défendu l'Immaculée Conception et au général des dominicains qui, eux, avaient
suivi la position de saint Thomas.
Et le père Del Prado disait, c'est grâce aux franciscains que le dogme a été proclamé, et c'est grâce aux dominicains longitudinistes que le bon dogme a été proclamé. Donc voilà. Mais encore une fois.
Oui, je trouve que l'histoire est très belle, mais.
Mais encore
ça ne me satisfait pas complètement au plan intellectuel. Le tous, là, me
non, mais attention. Les critères
si on revient à la question de la tradition.
Les critères de Vincent de Lérins nous sont une indication. Elles ne sont pas de foi, déjà. Hein, elles ne sont pas de foi. Le critère ultime du fait que nous soit désigné une vérité comme un dogme, car encore une fois, le Concile Vatican qui définit l'infaillibilité pontificale rappelle que le Saint-Esprit n'a pas été donné au pape, au souverain pontife, pour qu'il invente de nouveaux dogmes, mais qu'il garde fidèlement le dépôt révélé. Hein. Donc, le critère ultime, c'est le magistère de l'Église dans sa position infaillible qui va nous dire ceci est une vérité qui a toujours été dans la révélation.
Alors justement, ce rôle du magistère qui est fondamental, comme vous venez le rappeler et le souligner, où trouve-t-il son fondement dans la tradition ou dans les Écritures, les Écritures étant comprises
pierre,
dans...
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et ne prévaudront pas contre elle. Fondamentalement, c'est cela. Et pour en revenir justement à ce côté écrit et oral, ceci, tu es pierre, sur cette pierre, c'est dans la Sainte Écriture, donc dans la partie écrite. Mais rappelons que depuis toujours, le siège apostolique de Rome a été reconnu comme, le siège principal de l'Église et la norme pour toutes les autres Églises. Toujours, on a reconnu que on pouvait faire appel de toutes les sentences au souverain pontife, etc., que les légats du souverain pontife devaient présider les conciles écuméniques, etc. Et donc il a toujours été reconnu non seulement par ces phrases de la Sainte Écriture que nous connaissons, mais également par cette tradition orale venant des apôtres. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une chose qu'on s'est passée comme ça, il s'agit d'un enseignement des apôtres qui s'est toujours transmis, par exemple le baptême des petits-enfants. Le baptême des petits-enfants, c'est une tradition apostolique. Ce sont les apôtres qui l'ont reçu, notre Seigneur. Et ce n'est pas écrit dans la Sainte Écriture.
Oui, il n'y a pas de baptême de petits-enfants dans les évangiles.
Dans la Sainte Écriture. Et c'est reconnu par toutes les églises d'origine apostolique et même par des églises dissidentes, etc., alors que ce n'est pas dans la Sainte Écriture. Donc c'est une tradition qui vient des apôtres, n'est-ce pas ? Et donc le fait que le siège apostolique et que donc le souverain pontife soit le gardien et le garant de la foi, ça fait partie de la tradition, outre que c'est appuyé clairement sur la Sainte Écriture.
Alors, est-ce que allez-y.
Par exemple, le baptême des bébés, c'est de tradition, et dans la Sainte Écriture, quand on n'a pas d'exemple précis, la réflexion théologique va dire toute la maison de Corneille a été baptisée et il devait y avoir des petits-enfants. Mais ça sera indirect. Mais c'est vrai que si on pinaille dans la Sainte Écriture...
Comme je suis en train de faire, oui.
On ne parle pas de baptême de bébés, mais on a toujours baptisé les bébés. Donc, voilà. Mais l'abbé Cellier a raison de dire que l'indication de Saint-Vincent de Lérins a ses limites, puisque providentiellement, c'est ce qui est donné par le gardien du dépôt de la foi qui sera considéré comme la tradition. Et les quatre conditions du Concile Vatican Ier, là pour le coup, elles sont du Concile Vatican Ier, c'est que le souverain pontife, dans sa mission de confirmer ses frères, en tant que successeur de Pierre et vicaire du Christ, exige et oblige l'ensemble des baptisés à croire de foi telle vérité. Ces quatre conditions permettent au pape de dire « l'Esprit Saint m'assiste ». Donc, on n'a pas encore eu, dans l'histoire de l'Église, un pape qui aurait utilisé ces quatre conditions bien clairement pour enseigner une hérésie. Mais l'hérésie, à ce moment-là, serait manifestée par le fait qu'il dit de manière solennelle une vérité contraire à une vérité solennelle précédente.
Et cela se passe-t-il ?
Eh ben, ça ne s'est jamais passé.
Et ça ne pourra pas se passer. Jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas ?
Par exemple, le pape pourrait dire, moi, dans ma mission de confirmer
mes frères... J'ai l'impression que vous doutez sur ce point, mon père.
J'affirme que Jésus n'est pas Dieu et j'oblige tous les baptisés à le croire de manière définitive.
De cette façon-là, évidemment, mais...
C'est déjà pas mal.
En dehors des conditions d'infaillibilité, le pape peut se tromper, voilà, c'est la bonne question. En dehors des conditions d'infaillibilité, le pape peut se tromper. C'est pas parce qu'il n'est pas toujours infaillible qu'il se trompe toujours, mais du moment qu'il n'est pas infaillible, il est faillible, tout simplement.
Sûr. J'aimerais quand même entendre le père Thomas qui essayait de dire quelque chose.
Non, pas plus, mais... Si vous voulez, cette question de l'infaillibilité, bien évidemment, c'est très important, le dogme de l'infaillibilité. Et on voit bien que les papes n'ont utilisé leur infaillibilité en tant que telle que très rarement. Et c'est plutôt heureux. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le langage courant, et dans l'esprit de la plupart des fidèles, qu'ils soient traditionnels ou progressistes, ça importe peu, le pape est vu comme infaillible.
Mais dès qu'il parle...
Dans sa personne même.
Ouais.
Voilà. Impressionnant. Donc c'est quand même une question qui a un lien aussi avec notre compréhension de la tradition.
Oui, tout à fait.
Et la façon dont le souverain pontife et les évêques avec lui présentent cette tradition.
Mais effectivement, le Concile Vatican II, qui définit l'infaillibilité, n'est-ce pas, la limite de façon très claire.
Vatican I.
Et rappelons que une lettre demandée par le pape, envoyée, je crois, aux évêques anglais, britanniques, etc., ont bien rappelé que ça ne changeait pas la doctrine traditionnelle et que c'est seulement dans ces conditions qu'il y a infaillibilité. Et pour le reste, faillibilité.
Oui. Mais dans les conséquences, en fait, on voit bien que ça a quand même changé.
Ah ouais, sociologiquement.
Oui, ça a profondément marqué les esprits, le rapport de...
Déformer les esprits.
Oui, donc déformer les esprits, si vous voulez, et qui a donc marqué le peuple chrétien. Mais j'aimerais bien entendre Anne le Pape qui voulait prendre la parole tout à l'heure.
Non,
allez-y.
Non, je voulais simplement insister sur le côté héritage et richesse de la tradition, puisque c'est quelque chose que nous recevons en venant au monde, enfin en tout cas en entrant dans l'Église comme petit enfant. C'est Maurras qui prenait comme exemple le petit humain qui a besoin de la civilisation pour vivre, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte sur le petit poussin.
La politique naturelle. Oui.
Le petit poussin, lui, n'a besoin de rien pour casser sa coquille, pour briser sa coquille et dire « je suis libre », alors que le petit homme a besoin de beaucoup de choses pour arriver à vivre. Eh bien, le petit baptisé, qu'il soit tout petit ou adulte, a besoin de beaucoup de choses pour que sa vie divine, la vie divine grandisse en lui, et ça lui est apporté par la tradition. Mais j'ai envie de parler, quand j'ai réfléchi sur cette idée de tradition, il m'est venu à l'idée un exemple quand même assez émouvant, et qui est celui des chrétiens cachés au Japon. Ce sont donc des chrétiens qui se sont transmis une tradition catholique sans prêtre, et en étant menacés de mort si on découvrait qu'ils étaient chrétiens. Et cette tradition catholique a réussi à se transmettre pendant 2 siècles et demi. Et ils ont réussi, alors évidemment, tant bien que mal, ils récitaient le « Je vous salue Marie » un petit peu, voilà, l'idée y était, mais ils baptisaient les enfants. Et ils ont quand même retenu, ça c'est assez amusant, les critères pour reconnaître un prêtre catholique.
Oui, qui leur avait été donné.
Par rapport à un pasteur protestant. Ce qui veut dire que Saint François-Xavier et ses successeurs ont quand même bien fait leur travail. La tradition était quand même ancrée dans le cœur de ces catholiques. Et je trouve ça admirable.
Effectivement, c'est un fait historique...
Unique.
Unique pour, donc qui ne s'est produit qu'au Japon,
oui,
mais qui est plutôt encourageant quand même.
Très encourageant.
Sur le fait que même des persécutions très longues...
Et très fortes,
oui.
C'est vrai qu'au cours de ces 2 siècles et demi, peu à peu, justement, la substance de la tradition...
S'est
étiolée, a disparu, et que lorsque les premiers missionnaires sont revenus au XIXe siècle, les missionnaires de Paris, les missions étrangères de Paris... il y a des chrétiens cachés qui n'ont jamais voulu rentrer dans le sein de l'Église catholique officielle parce qu'ils étaient trop attachés désormais
à leur propre tradition.
Il y en a aussi qui ont eu peur et qui ont eu d'une certaine manière raison,
oui,
puisque les persécutions ont recommencé après.
Oui, bien sûr. Alors, on ne va peut-être pas faire l'histoire, mais qui est passionnante, au demeurant, du catholicisme au Japon. Avant de rentrer peut-être dans une discussion sur le rapport entre la tradition et les traditionalistes, j'aimerais vous poser une question sur le fait que se développe aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, l'idée que la tradition catholique, en fait, s'insère dans une tradition plus globale, une tradition initiale.
C'est du Guénon que vous nous faites là ?
C'est sur ce point-là, oui.
La tradition primordiale.
La tradition primordiale, merci monsieur l'abbé, je cherchais le terme. Quel est le rapport donc justement entre la tradition catholique et cette tradition primordiale ?
Mais je dirais, on peut le voir de deux façons. Soit c'est la tradition initiale, c'est-à-dire celle donnée à Adam, qui aurait été plus ou moins transmise et qui nous apporterait qui nous aurait apporté un certain nombre de vérités. Ça peut s'entendre avec beaucoup de nuances, mais pourquoi pas. Effectivement, c'est des thèses un peu de Bonald, de Demestre, qui estiment que la tradition primordiale, donc venant d'Adam et de ses successeurs, nous aurait été transmise en partie et véhiculant donc des vérités.
Ces thèses n'ont pas été condamnées par le magistère justement.
Je dirais attention,
ceci
n'a pas été condamné en tant que tel. Par le magistère, du moment qu'on met les nuances nécessaires, c'est-à-dire que ça nous est parvenu dans un état qui était fragmentaire, abîmé, etc., parce que le péché avait abîmé tout cela. En revanche, le guénonisme, on va dire, prenons le mot de façon claire, nous parle d'une tradition universelle dans laquelle le christianisme et le catholicisme seraient une part ou un véhicule de cette tradition primordiale. Ça, c'est franchement hérétique. Ça, c'est franchement contraire à il y a une révélation divine.
Donc, c'est pas la même conception de la tradition.
Non, c'est deux choses différentes. Les traditionalistes du 19e siècle, disons de Bonald, etc., nous disent que nous avons reçu, disons, un certain nombre de vérités ou d'attitudes venant d'Adam et des patriarches, n'est-ce pas? Et qui serait charroyé avec en même temps la révélation chrétienne qui est proprement divine et immédiate, c'est notre Seigneur qui nous révèle les secrets du ciel. Et Guénon, qui a inventé quand même quelque chose, qui a inventé une tradition dite primordiale dans laquelle s'insérerait lui-même d'ailleurs, baptisé catholique, s'était fait soufi musulman, et pensait que la franc-maçonnerie était un véhicule de tradition plus efficace que le christianisme. Donc déjà, on n'est pas du tout dans la même... C'est hérétique pour moi, c'est contraire...
C'est pas pour vous qui m'intéresse, c'est pour l'Église.
C'est directement contraire à la foi catholique, qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule révélation divine, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin de l'Ancien Testament et de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'on ne peut pas dire que l'islam ou que la franc-maçonnerie nous apporte la révélation divine. Ça, c'est...
Vous avez par exemple actuellement des rabbins dans la transmission des connaissances de la synagogue, mais aussi avec le Talmud et des ajouts, des réflexions et autres... qui ne sont pas proprement ce qui a été surélevé par notre Seigneur et qui était la science de Saint Paul, par exemple. Mais donc certains rabbins actuellement vont dire nous avons une pleine révélation dans la logique de la religion juive contemporaine, et il y a les lois noachiques donc Noé, qu'on peut reconnaître chez certains peuples ou qu'on propose à ceux qui ne sont pas juifs. Les lois noachiques, qui seraient, d'une manière ou d'une autre, par exemple, les 10 commandements. Alors moi, j'ai une petite objection là-dessus, d'ailleurs, c'est que justement, si on s'écarte de la tradition révélée par le vrai Dieu, par ses prophètes depuis des siècles et des siècles, on pourrait passer à côté de la monogamie, parce que la monogamie, elle est justement profondément traditionnelle. C'est-à-dire que, comme dit le Christ, il n'en était pas ainsi dès le commencement. Donc la polygamie est certainement pas de tradition humaine, primordiale ou quoi que ce soit. Vous voyez, si on veut essayer de trouver une tradition adamique, il faudra y mettre la monogamie. Pour une morale familiale, voilà. En tout cas, en dehors de la révélation divine, on part dans les inventions humaines, dans les erreurs humaines et dans l'imagination presque.
Alors, si on poursuit un peu notre réflexion sur la tradition, quand en 1988, sauf erreur de ma part, le pape Jean-Paul II a publié son motu proprio Ecclesia Dei ad Ficta. Il y a un concept qui concerne la tradition qui a été mis en avant et qui a entraîné beaucoup de discussions, pour ne pas dire plus, c'est celui de tradition vivante. Comment est-ce qu'il faut entendre ou comprendre ce concept de tradition vivante ?
Il est plutôt heureux que la tradition soit vivante, évidemment, et qu'elle ne soit pas morte. Mais si on entend par tradition vivante une sorte d'évolution l'élaboration même des concepts, l'élaboration des dogmes, etc., en dehors de toute infaillibilité pontificale, évidemment, on fait fausse route. Bien évidemment que dans la manière de transmettre, il y a des façons diverses de transmettre selon les époques et selon les pays, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça n'a rien à voir avec le dépôt même de la tradition. Ça ne dit rien d'un mouvement qui s'opérerait au sein de la tradition. Or, dans le texte de... c'était Ecclesia Dei Afflicta, hein, en 88, je me permets de lire simplement cette phrase. « La perception des choses, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît par la contemplation et l'étude des croyants, par l'intelligence intérieure des choses spirituelles et par la prédication des évêques. » Alors, bon, s'accroître, tout dépend de ce que l'on entend dans ce terme. Est-ce que c'est le contenu même qui s'accroît ? Est-ce que c'est
la compréhension ?
Est-ce que c'est la façon de présenter les choses qui, en effet, change, bouge ? Tout cela n'est pas très clair. Mais si on entend, en effet, comme tradition vivante, le fait que la tradition n'est pas close, je pense qu'il y a une erreur.
Oui, il est clair que pour l'Église catholique, l'abbé Cellier le rappelait tout à l'heure, hein, l'enseignement est de l'héritage des apôtres est clos, enfin la tradition est close.
Voilà, mais c'est ça qui n'est pas clair. Monsieur Shannon Nagelfucci citait tout à l'heure le communitorium de Saint-Vincent de Lérins, qu'il dit que s'accroisse l'intelligence de la foi, eodem sensu et eodem sententia, dans le même sens et dans la même sentence, c'est-à-dire que le contenu, lui, ne varie pas, la perception plus ou moins affiné, plus ou moins, comme nous l'avons dit, de l'Immaculée Conception. La perception, je dirais, définitive s'est trouvée donc avec l'acte de Pie IX, mais effectivement, cette vérité est toujours la même. Elle n'a pas changé avant Pie IX, sous Pie IX, etc. Donc, effectivement, dans la notion de tradition vivante, je pense que subrepticement, hein, on laisse croire qu'il s'agit simplement d'une meilleure compréhension, alors qu'on est en train d'introduire des nouvelles vérités dans la réalité.
Ça, c'est une exégèse que vous faites, en fait.
C'est une exégèse, mais c'est une constatation aussi de tous les jours. On vient de nous dire qu'il était tout à fait légitime et tout à fait conforme à la Sainte Écriture de bénir les unions homosexuelles. Il suffit de relire la Sainte Écriture. Je ne crois pas que l'homosexualité soit particulièrement prônée par la Sainte Écriture. On va dire ça avec la modération qui nous caractérise.
Qui vous caractérise, évidemment. Monsieur l'abbé Gelfucci.
On est passé à côté d'un grand exemple de tradition vivante, c'est le terme de Trinité. Il est bien évident que le terme de Trinité a été forgé par la tradition, a été présenté, et il n'est pas dans la Sainte Écriture, il n'est même pas dans les premiers siècles. Et quand on trouve ce mot pour signifier l'unique substance de Dieu, de l'être éternel qui se pense et s'exprime et qui aime, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le mot Trinité n'est pas une nouveauté. C'est l'expression de la tradition.
Alors je vous propose quand même de revenir sur le concept de tradition vivante et ce que ça induit ou ça, vers quoi ça a conduit. Et peut-être que Anne voulait réagir à ce propos-là.
Je pensais à la réponse, je crois que c'est Mgr Tissier qui avait répondu quand on lui avait demandé pour lui ce qu'était si la tradition était vivante. Il a répondu: la tradition est vivante non pas parce qu'elle bouge, mais parce qu'on en vit. Et Et je pense aussi, bon, je suis savante avec mes livres, comme le jésuite des provinciales, à l'abbé Houtonne, que j'aime beaucoup citer, qui disait que ce sont les choses finies qui changent et que Dieu ne change pas fondamentalement, bien sûr, et que la béatitude au ciel sera un immuable repos. On demande le repos pour les gens qui sont morts. Et que c'est l'enfer qui... L'enfer est le domaine du bougisme et du mouvement. Et enfin, je citerai la devise des Chartreux qui est « Stat crux dum volvitur orbis ». La croix reste, la croix demeure alors que le monde s'agite. Voilà. Donc la tradition...
On aurait envie de finir l'émission sur ce mot, mais nous allons quand même la continuer. Vous voulez intervenir, mon père, pardon.
Oui, en ce qui concerne la tradition vivante, le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on en parle au sein de l'Église, on considère qu'elle est vivante parce qu'elle va bénéficier des apports extérieurs, des opinions, non seulement des opinions personnelles des uns et des autres, mais aussi d'apports extérieurs des sociétés contemporaines. On le voit bien dans le décalage peu à peu qui se fait en ce qui concerne la morale sexuelle.
Oui, effectivement. Mais alors, quand même, il y a un argument qu'on vous oppose, c'est de dire que les traditionalistes, par exemple, ont figé la tradition soit au XIXe siècle, soit au Concile de Trente, mais se sont d'une certaine manière coupés d'une transmission vivante, justement, et confondent tradition et discipline de l'Église.
Mais tous les fidèles sont traditionnalistes. Enfin, tous les fidèles sont attachés à la tradition. Ça n'a pas de sens de dire traditionnaliste ou...
Alors ça, je retire ce mot, si vous voulez, mais...
Là, vous entendez traditionaliste par quoi ?
Moi, j'entends pas.
La messe en latin.
Ah, la messe en latin.
Le sens un peu restreint que ça a pris, finalement. Ouais. Parce qu'avant, on ne parlait pas de la tradition. Avant Vatican II, on ne parlait pas de la tradition, on était forcément...
On en parlait
tous les catholiques étaient traditionnels.
Dans les traités théologiques.
Oui,
on en parlait par rapport au texte de Joseph de Maistre.
Le fidèle lambda ne parlait pas de tradition. Alors que maintenant...
C'est ce qu'on appelle le fidèle lambda, là aussi.
Non, oui. Je le prends pour le fidèle lambda, disons.
Donc avant Vatican II, vous ne
parlez pas de... Avant Vatican II, je ne parlais pas de tradition. Voilà.
Non, mais j'aimerais qu'on réponde quand même, même si le père Thomas m'a décoché une petite flèche, à ma question, qui est l'un des arguments qu'on retrouve assez souvent, qui est quand même parmi ceux qui s'opposent aux traditionalistes, si vous voulez, aux catholiques en général, c'est de leur dire, vous avez figé la tradition soit au XIXe siècle, soit au Moyen-Âge, soit dans des aspects disciplinaires qui ne sont plus de mise.
Voilà, je dirais ce qu'on appelle le traditionnalisme, qui est un concept assez vague, mais enfin bon, on le situe à peu près, n'est-ce pas ? D'une part, entend recevoir et conserver la doctrine chrétienne telle qu'elle s'est exprimée de façon unanime et éternelle, au moins jusqu'au Concile Vatican II, et rejeter donc les erreurs contraires à cette doctrine. Donc le traditionnaliste reçoit la tradition liturgique, la tradition, je dirais, théologique, la tradition spirituelle de la vie chrétienne, mais aussi c'est une attitude prudentielle, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes dans une crise, nous sommes au plein milieu d'un brouillard, il y a des tas de choses qui se passent, dont certaines sont évidemment mauvaises, dont certaines sont douteuses, dont certaines sont... on ne sait pas trop, et donc il y a une attitude prudentielle d'attente, où on conserve ce qui se faisait jusqu'au Concile Vatican II, 10 ans, de façon certaine et ordinaire, donc c'est pas le Moyen-Âge, la liturgie que nous suivons, elle est selon des rubriques de 1962, donc c'est pas le 19e siècle, ne racontons pas des salades, et c'est une attitude prudentielle en attendant que le brouillard se dissipe et que effectivement les bonnes évolutions normales, etc., outre que, je dirais, on ne marche pas à pied ni on ne va en vélo, on se sert de voiture, on se sert d'ordinateur, etc., ne racontons pas des salades non plus sur les traditionnalistes. Bien, on est quand même sur Internet et les sites traditionnalistes sont parmi les plus puissants sur Internet, je me permets de le dire. Et donc, en matière de christianisme, donc effectivement, il y a à la fois le fait de vivre des richesses de la vie chrétienne, et une attitude prudentielle qui dit « pour le moment, nous n'y voyons pas clair, donc nous ne prenons pas de décision, nous ne décidons pas qu'il faut faire comme ci, comme ça, nous restons sur ce qui s'est toujours fait, qui se faisait de façon tranquille et simple, et en attendant que les choses se décantent et que les choses se clarifient. »
Je prendrai des exemples que...
De manière rapide, s'il vous plaît.
Les gens voient. On a changé de tenue vestimentaire. L'habit religieux. La messe en latin. Alors, Mgr Lefebvre, dans les réflexions, disait peut-être qu'on pourrait dire l'oraison en français, puisque, de manière systématique, on a dit l'épître et l'évangile en français, très souvent, de plus en plus. Donc ça, c'est une évolution qui pouvait être comprise. On n'a jamais dit le sermon en latin. Mais, si vous voulez, le fait de changer de vêtements n'a rien apporté. Et cette tradition était bonne et intrinsèquement bonne. Et le fait d'avoir un habit religieux, comme la soutane, c'est une tradition qu'il faut garder.
Mais la soutane n'a pas toujours été de mise.
Non, mais un habit religieux...
L'habit clérical a toujours été
de mise. L'habit clérical n'est pas la soutane.
Ensuite, la messe Saint-Pie V. C'est pas une question de latin. Si actuellement des jeunes sont attirés par la messe Saint-Pie V, c'est par son recueillement le fait que ça élève l'âme par beaucoup de silence. Et pour terminer, je vous dirais qu'il y a... le progressisme a voulu que Jésus soit un ami, un copain, et que le pain partagé n'était pas la présence réelle de Jésus, le Fils de Dieu, alors que Saint Paul nous dit qu'il faut bien discerner le corps du Seigneur. Et le rituel traditionnel nous fait communier à genoux, entoure les paroles de la consécration d'un sacré tout particulier, et donc on ne peut pas l'abandonner. Et d'ailleurs, actuellement, si vous voulez, le progressisme a échoué sur la présence réelle, puisque maintenant c'est les jeunes qui se mettent à genoux pour communier, même dans une messe, justement, comment dire, réformée, plus participative. Vous voyez, les traditionalistes, comment dire, auront fondamentalement raison, parce qu'ils ont conservé, tout simplement, cette présence réelle, mais aussi, et je terminerai là, excusez-moi, la communion
en état... Je ne sais pas si je vais vous expliquer.
La communion en état de grâce, sur la morale. Vous voyez ? On aura beau dire à nos pénitents « Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave », le sensus fidei, c'est de communier en état de grâce.
Monsieur l'abbé, il nous reste plusieurs questions. Anne, vous vouliez réagir ? Je vous demande aussi de réagir vite, oui, si possible.
La tradition peut changer. Non, la tradition peut progresser, donc...
Eodem sensu et dantem.
Voilà, mais elle ne peut pas changer, elle ne peut pas devenir autre. Et je me souviens d'une expression disant que la tradition était modelée par les siècles comme un paysage par l'eau ou le vent au long des siècles. Donc, il faut que ce soit quelque chose de très délicat et de pas du tout brutal. Or, l'abbé Guelfucci a évoqué la liturgie, qui a effectivement, c'est ce que le fidèle lambda a vu changer le plus et de façon très brusque. Et ce qui a choqué ce fidèle, c'est que tout d'un coup, il a vu quelque chose de totalement inventé qui lui était proposé. Et je lis un extrait de la messe de Vatican II de l'abbé Barthes, parce que sinon on ne me croira pas.
Non.
Et c'est un extrait des mémoires en fait de Louis Bouillet, à qui on a demandé d'un jour à l'autre de proposer une prière eucharistique. J'ouvre les guillemets. Par chance, je découvris dans un écrit, sinon d'Hippolyte lui-même, assurément dans son style, une heureuse formule qui pouvait faire, sur le Saint-Esprit, qui pouvait faire une transition. Bott, avec qui il est chargé de trouver quelque chose vite fait, Bott, pour sa part, fabriqua une intercession plus digne de Paul Rebout et de son « à la manière d'eux » que de sa propre science. Mais je ne puis relire cette invraisemblable composition sans repenser à la terrasse du bistrot du Transtévère où nous sûmes fignoler notre pensum pour être en mesure de nous présenter avec lui à la porte de bronze à l'heure fixée par nos régents.
C'est ce qui allait conduire à la prière eucharistique numéro 2.
Le canon de saint Hypocrite.
Voilà.
Oui, parce qu'il a été invoqué comme étant le canon de saint Hippolyte. Est-ce que la tradition se réduit au mouvement traditionaliste?
Non,
la fraternité Saint-Pidis, par exemple.
Il y a diverses formes. D'abord, il y a diverses formes de traditionalisme. Il y a la fraternité Saint-Pidis et les autres fraternités diverses. Et il y a des gens qui ne sont pas traditionalistes, patentés, qui s'efforcent de rester catholiques et de vivre une vraie vie chrétienne. Cependant, je ne mets pas une égalité entre tout cela.
J'étais étonné de cette déterminée.
Voilà. Donc, effectivement, je ne mets pas la parité entre tout ça, mais chacun fait ce qu'il peut là où il est. Est-ce que je peux faire une petite citation, puisque tout le monde fait des citations, j'ai le droit aussi.
Non, j'ai pas fait de citation.
Voilà. Donc, je voudrais juste faire une petite citation à propos des malheureux traditionalistes qui sont des idiots, etc. Nous le savons tous. En tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà la citation. « À travers toutes les aventures de la déchristianisation, c'est dans ces groupes attachés à la tradition, indifférents aux variations des époques et comme privés de tout rapport à l'histoire, que se conserve l'énergie de la tradition et son invisible rayonnement. » C'est une pensée du grand philosophe juif Emmanuel Levinas, qui parlait bien sûr de la déjudaïsation et non pas de la déchristianisation.
Vous avez adapté.
Mais la remarque vaut parfaitement pour les communautés catholiques traditionnelles.
Voilà, un nouveau père de l'Église. Donc. Père Thomas, vous vouliez réagir vous aussi?
Oui, j'aimais bien la formule de Daniel Amiche qui parlait de l'écuménisme de la tradition. En fait, il était partisan de l'écuménisme.
Mais que nous pratiquons ici, d'ailleurs.
Que nous pratiquons ici, évidemment.
Enfin, nous essayons de pratiquer, en tout
mais
cas.
Mais qui doit déborder largement sur ceux qu'on considère trop strictement comme les traditionalistes, parce que je reste convaincu que tout bon catholique est un traditionnael.
Bien sûr, non, mais ça, on vous rejoint.
C'est Saint-Pédis. Les vrais amis du peuple ne sont ni progressistes, ni révolutionnaires, ils sont traditionnalistes.
Mais nous sommes d'accord là-dessus, rassurez-vous. La tradition, l'avenir de l'Église,
c'est le seul avenir possible.
Démographiquement.
Non, mais la tradition, c'est l'Église.
C'est très bien. Merci beaucoup. Évidemment, nous n'avons pas épuisé ce très vaste sujet. Merci en tous les cas de ces commentaires, de ces précisions sur ce concept important de la tradition. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut, évidemment, pour une nouvelle émission, un nouveau thème et de nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Et n'oubliez pas de soutenir le Club des Hommes en Noir.
Merci d'avoir écouté ces podcasts de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homenouveau.fr.